Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous avec ce groupe Time Time, qui pour moi est une belle, je dirais, des belles retrouvailles. Les gens le savent peut-être un peu comment le Time Time s'est mis à exister. C'était donc l'année dernière, ou ça fait peut-être même... Oui, c'était l'année dernière. J'avais coordonné un événement qui s'appelle l'Avenue de la diversité, où on avait rassemblé 160 intervenants du monde de la littérature, du monde culturel, du monde de l'éducation, donc des professeurs, des libraires, des auteurs, des éditeurs, des diffuseurs, des représentants des institutions, pour réfléchir à la représentation et la sous-représentation des auteurs de groupes marginalisés à différents niveaux, ce qu'on appelle dans le langage technique « visible minorities », dans le paysage littéraire québécois, alors qu'il n'en manque pas de ces auteurs-là, puis ils ont des choses très intéressantes à contribuer. Et il y avait un atelier sur la traduction avec des auteurs que j'ai eu le grand bonheur de découvrir, des auteurs d'origine arabe qui écrivent dans leur langue maternelle, ici à Montréal. Et pour moi, ça a été une découverte. Je ne savais pas qu'il y en avait autant et qui étaient aussi actives avec leur propre cercle d'écriture, de littérature. Donc, une vie dynamique, littéraire dynamique. Et j'ai trouvé ça choquant que ce trésor-là n'était pas reconnu. Et donc, après ça, on a mis ensemble, il y avait Linda Leed qui faisait partie du cercle de discussion, et je vois plusieurs des auteurs qui étaient là aussi. Et ils ont discuté ensemble, et ce qui est arrivé, c'est quelque chose qui pour moi a été vraiment extrêmement émouvant. Ce groupe-là a continué à exister autrement, c'est-à-dire que les gens se sont mis à se parler, puis à développer leurs propres occasions de discussion, de réflexion autour de la traduction. Donc, je suis très, très heureuse d'être ici aujourd'hui, de voir qu'est-ce que ça donne, de voir que là, il y a un colloque pour parler de la traduction de langue arabe. Je me sens un peu mal placée ici parce que je suis une arabe d'origine, je suis palestinienne d'origine, mais en fait, je n'écris pas en arabe, j'écris en français, bien que je maîtrise ma langue. Donc, j'écris, je lis... Je parle l'arabe, mais ma vie d'écrivaine n'est pas en arabe, c'est en français. Et donc, je vais peut-être discuter un petit peu des enjeux de cela à partir de ma propre expérience. Et ce matin, quand on m'a demandé de donner un titre, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de dire « sortir du monolinguisme ». Et c'était une référence aussi à Derrida, le monolinguisme de l'autre. Et dans ce petit texte-là de Derrida, il dit deux phrases qui sont très intéressantes. Il dit « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne ». Donc ça, c'est la première. Ça, c'est un point de départ pour la réflexion de Derrida, le philosophe, qui est lui-même franco-maghrébin, n'est-ce pas? Et dans une autre partie du livre, il dit « Je vais vous donner deux constatations contradictoires, mais qui se complètent. On ne parle jamais qu'une seule langue, mais on ne parle jamais une seule langue. » Et ensuite, il dit « Mais c'est la loi. » En fait, c'est la définition même de la traduction. Hein? « On ne parle jamais qu'une seule langue. » On ne parle jamais une seule langue. Donc, la traduction, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est une langue, mais derrière cette langue-là, il n'y a jamais une seule langue. Il y a plusieurs langues, il y a plusieurs imaginaires. Et je pense que ça, c'est un enjeu, un point de départ de réflexion intéressante, pas seulement pour les traducteurs, mais pour les écrivains qui vivent dans plusieurs langues, mais qui, finalement, ce qu'ils produisent, c'est peut-être une langue, mais on sait très bien que il n'y a pas qu'une seule langue dans cette langue-là. Les gens, quand ils me posent la question « Pourquoi écris-tu en français ?», j'ai tendance à leur dire « Mais vous pensez que j'écris en français, mais ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Je vous écris en français, en arabe et en anglais. Et probablement des traces d'autres langues que j'ai apprises et que j'ai oubliées, comme l'espagnol, comme l'allemand, comme... Ils sont tous là. Elles sont toutes là, ces langues-là. Et vous ne le savez pas, mais vous êtes en train de de lire une traduction. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est ce processus de traduction-là qui existe constamment dans le processus, dans l'écriture même. Moi, quand j'écris, même quand je suis en train de vous parler là, je suis en train de traduire. C'est une expérience innée, je pense, pour toute personne qui parle plus d'une langue. Ça peut devenir très intériorisé et très automatiste, presque, mais je suis toujours en train de traduire. Quand je suis en train d'écrire, quand je suis en train d'imaginer, je suis toujours en train de traduire. Et c'est rare, en fait, qu'une idée me vient directement en français. C'est rare, parce que c'est quand même la troisième ou la quatrième langue que j'ai appris. Donc souvent, je vais avoir une image, une image qui pour moi est très arabe. Tu sais, comment une image peut être arabe, mais c'est une image qui pour moi dans ma tête est une image très arabe. Ou je peux avoir une expression très anglaise. Et je suis toujours en train de traduire pour transposer ça dans une langue, dans un alphabet, dans une syntaxe française. Donc, je pense quand on parle de l'enjeu de la traduction, là, on parle vraiment du cas des auteurs arabes, mais je pense qu'on peut, en fait, on peut poser le problème aussi, la même problématique pour d'autres langues également. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, je pense que l'enjeu de traduire de l'arabe au français ici est plus qu'un enjeu linguistique. Il y a derrière cela tout un imaginaire qu'on est en train de faire exister. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a comme une espèce d'inversement du rapport à l'autre. Il y a beaucoup dans la littérature québécoise maintenant, il y a cette tendance qu'on appelle la tendance de l'extraterritorialité. Les écrivains, pour la plupart des écrivains québécois, je dirais d'ascendance canadienne, française, ça c'est la terminologie anthropologique, même si politiquement c'est pas correct, mais les anthropologues, c'est comme ça qu'on dit ça. Et on voit de plus en plus de romans où on écrit sur l'autre, un autre lointain. Des personnages qui sont ailleurs, qui sont dans le monde arabe, qui sont en Afrique, qui sont en Chine, qui sont... Et c'est présenté comme une espèce d'ouverture, d'élargissement de l'imaginaire québécois et même comme une espèce d'affirmation de l'identité québécoise en disant que voilà, on se place dans le monde, on se permet de parler de l'autre. Et la problématique avec cette question-là, il y a deux problèmes. Une fois, il y a eu un article justement sur cette extraterritorialité. Et il y avait une chronique dans Le Devoir et la chroniqueuse littéraire faisait comme une espèce d'anthologie de tous ces auteurs québécois qui nous présentent le monde, qui nous permettent de rencontrer le monde. Et ce qui m'a étonnée, il n'y avait aucun auteur dans la liste qui était un auteur qu'on peut appeler un auteur de la diversité. Comme si, alors que les auteurs qui écrivent ici en français, souvent, ils parlent d'autres lieux, d'autres temps, dans le sens où ce sont des lieux qui viennent de l'origine de l'auteur. Donc, moi, ce qui écrit sur la Palestine, je ne suis pas dans l'extraterritorialité québécoise. Mais Anaïs Barbeau-Lavalette, qui écrit sur la Palestine, elle est en train de vous présenter la Palestine. Vous voyez la différence. On peut analyser ça de toutes sortes de façons, mais ce que je trouve intéressant avec la traduction de l'arabe au français, c'est que souvent, et en tout cas les auteurs que j'ai rencontrés à travers cette expérience de l'avenue de la diversité, comme Samar Sadeh, comme Oussama Alam, qui est là d'ailleurs, je le vois, oui, c'est qu'ils écrivent des histoires sur le Québec, sur Montréal, et ce sont des auteurs arabophones qui découvrent le Québec. Donc, on a inversé ce rapport à l'autre. C'est comme si, je l'avais formulé d'une manière très gauche, parler de l'autre à moi, au mien, et l'autre est le Québec. Et il y a quelque chose d'extrêmement subversif dans cela, et d'extrêmement intéressant. Et je me demande si, ici, dans le paysage littéraire québécois, on est prêt à avoir, à lire des auteurs qui se donnent le droit de représenter le Québec au monde. Et alors que on a tendance à voir l'inverse comme étant quelque chose de riche. C'est-à-dire, ah oui, le Québécois peut parler du Rwanda, un dimanche à la piscine à Kigali. C'est ça. Anaïs Lavalette Barbeau peut embrasser Arafat, il n'y a aucun problème. Larry Tremblay peut créer tout un roman autour des kamikazes et du suicide et de représenter la mère arabe d'une façon qui, pour moi, est extrêmement problématique. Je n'irai pas là-dedans. Et c'est encensé. Mais est-ce qu'on est prêt à entendre des auteurs, d'autant plus des auteurs arabes, avec tout ce qui est de politique et de l'image de l'arabe aujourd'hui et du musulman, à être ambassadeur du Québec pour le reste du monde. Et je pense que là, on est vraiment au-delà d'un enjeu. On est au-delà d'un enjeu de la traduction. Je voulais poser ça comme une provocation pour susciter la discussion. Mais je voulais peut-être aussi sensibiliser les points qu'on est souvent loin de simples questions linguistiques. Je vais vous terminer avec un autre exemple. Comment la traduction, j'ai commencé en vous disant, j'écris en français, mais en fait, le produit est français, mais l'imaginaire est autre. Je vais donner un exemple que j'avais eu quand je faisais mon roman « L'ombre de l'olivier ». Deux exemples. Alors, il y a un exemple où je parlais du bulldozer. Okay? Vous savez, je suis d'origine palestinienne. Le bulldozer a une signification extrêmement, extrêmement politique. Alors, moi, j'écrivais toujours « le bulldozer »,« le bulldozer », »,« le bulldozer ». Et la correctrice m'avait tout changé ça en disant « un bulldozer, un bulldozer, un bulldozer ». Elle m'a dit « mais c'est une machine ». J'ai dit « mais pour vous, c'est une machine. Pour moi, c'est un monstre. » Alors, ce n'est pas un bulldozer. Ce n'est pas neutre. C'est le bulldozer parce qu'il y a une image très forte du bulldozer qui vient et qui détruit. N'est-ce pas? Un autre exemple d'enjeu de traduction, à un moment donné, je parlais d'un personnage et j'écris « il est un rêveur ». Et on me dit « non, c'est un rêveur ». Et là, je dis « non, il est un rêveur ». Elle m'a dit « mais on ne dit pas ça en français ». J'ai dit « je sais que vous ne dites pas ça en français, mais pour moi, le « ce » est objectivant. C'est comme chosifier un humain. Et c'est péjoratif quand on dit « ah, c'est un rêveur ». Mais si on dit « il est un rêveur », c'est que son métier était de rêver. Et ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Et ça vient aussi de l'anglais. On ne dit pas « it is a dreamer »,« he's a dreamer »,« she's a dreamer »,« they are dreamers ». Ça n'existe pas le « c'est un rêveur ». Donc, il y a aussi un petit peu d'anglais qui vient de ça. Et souvent, j'étais dans des discussions où il n'y avait pas une erreur dans la règle, mais il y avait une espèce de dissonance entre son imaginaire, la correctrice, et mon imaginaire, et je devais souvent lui expliquer des choses qui vont au-delà de la langue pour arriver à une correction ou une révision qui ne trahit pas ce que j'essayais d'exprimer au-delà de l'alphabet. Donc, je pense que je vais peut-être arrêter là. Je voulais simplement vous lancer ces pistes-là et voir après ça comment on peut discuter de ça. Merci.